bonsoir, bonsoir, bienvenue dans cette 12e émission. Ouais. J'étais pas là la dernière fois, donc je perds le compte. 12e émission d'Imaginaire avec Romain, Article, bonsoir. Robert, Jackie et Patrice.
Bonsoir.
Bonsoir. Et, bonsoir. Vous aurez reconnu Robert dans la présence de Robert Darvel qui, très mécontent de son interview, a exigé un droit de réponse et a fait le chemin jusqu'à nos studios. Histoire d'expliquer en quoi on a détourné le sens de son interview.
Voilà, tout à fait. Je ne suis pas Robert Darvel.
Donc, pour ce soir, vous êtes sur Radio G, de 21h à 22h. Ouais. Et c'est le thème des aventuriers, hein, c'est ça, c'est l'aventure. C'est pas vraiment le pulp, je crois qu'on est plutôt parti sur de l'aventure à la française.
Franco-belge, on va dire.
Franco-belge. Donc, on va vous laisser découvrir petit à petit tout ce dont on va parler. Et on commence avec, comme d'habitude, le dinosaure.
C'est parti.
Salut les finesses. Un spécial aventure, l'aventure. Monsieur Darvel, aux éditeurs des fessicules au carnet redonne ses lettres de noblesse au genre. Mais de quoi plus étonnant quand on connaît le bonhomme. Le port altier, l'œil vif, la cuisse forte, le poil de rue. C'est l'homo sapiens aventuris type. Quid du retour d'Harry Dixon, détective de l'étrange, de l'arrivée de Green Tiburon, le catcheur mexicain masqué, qui affronte des monstres, les Sélénites, les héros policiers Kudjat, Jeanne d'Arc, qui affronte des vampires. Bob Moran, Doc Savage, Tarzan sont des héros qui ont bercé, un peu trop près du mur pour certains, l'inconscient collectif. Puis les héros ont un peu changé, revenant de la guerre contre les nazis. Puis ils ont mis très jolis collants, puis des armures. Des armures. Tiens, ça me rappelle Ernest de Stegosaur. Il s'est longtemps cru un aventurier sous prétexte qu'avec quelques copains à lui, il aimait à traîner dans les coins un vélociraptor afin de leur faire goûter à sa queue musclée, hérissée de protubérances osseuses. Le soir, en rentrant de sa virée, alors qu'il comptait Fleurette et Ernestine, il se remémorait ses batailles rageuses contre les voyous, terreur des petits herbivores. Bref. Ernest se la jouait terreur. Le problème d'aventurier, c'est qu'à un moment, il faut savoir s'arrêter. Trouver ses limites, en quelque sorte. Ernest a trouvé la sienne. Et alors que ses gros quartiers fermentaient tranquillement dans mon estomac, j'ai pu apprécier les qualités de ses protubérances osseuses, qui font de très pratiques cure-dents. Robert Darvel est en fait un drôle de bonhomme, qui met sa plume et celle des autres dans des endroits où plus personne ne mettait rien. Et en plus, on passe de bons moments dans ces fascicules à l'ancienne sur lequel souffle une modernité que les plus classiques n'ont pas la témérité d'affronter. Le carnoplaste. Lisez-le, ou je vous bouffe.
We'll be right back.
Radio G 101.5.
Ouais, c'était Sleazy Air, c'est un groupe de punk mélodique de Clermont-Ferrand qui a sorti un unique album en 99. Et plus cette reprise d'Indochine qu'on trouvait sur un sampler, ça s'appelait Punk Rock Magazine, c'était Rock Sound qui faisait ça à l'époque où le punk à roulette vendait des disques.
Époque bénie.
Et donc, Article, tu me faisais remarquer qu'Indochine a fait référence à Bob Moran dans un autre morceau.
Oui, ils sont surtout connus pour l'aventurier, en effet, mais le single suivant, qui était Miss Paramount en 83, fait directement référence à un des personnages principaux de la saga, une plantureuse journaliste rousse nommée Sophia Paramount. Et donc, l'allusion est complètement claire.
Ok.
Eh ben, on reste auprès de Bob, pour ainsi dire. Puisqu'on va l'évoquer le long de ses très nombreux romans qui lui sont consacrés.
On va essayer de faire un petit résumé, parce que 60 ans d'existence, c'est quand même très très long. 200 romans, 30 nouvelles, donc ça fait beaucoup de choses à traiter. Donc j'ai opté pour un petit résumé. Donc ce personnage qui a donc été créé en 53, donc 60 ans d'âge.
Cette année,
Et oui, d'ailleurs il y a quelques festivités qui sont déjà prévues pour célébrer ça. Alors Bob Moran, c'est un Français athlétique, cheveux noirs, coupé en brosse, les traits durs et secs. C'est un héros de la bataille d'Angleterre, et donc il a plein de qualités. Hein. Il est ingénieur, polytechnicien, nyctalope, ce qui peut bien servir pour les aventures nocturnes.
Copieur.
Et il collabore épisodiquement à un magazine qui s'appelle Reflet en tant que reporter photographe. Hein. Donc il nourrit ce magazine de ses propres aventures. Alors c'est un individu curieux par définition et aventurier par goût. Et il sillonne le monde pour défendre... Alors pas seulement la veuve et l'orphelin, mais aussi les peuples opprimés. Ça, c'est une tendance qui est assez marquée chez Henri Verne. Il y a un petit côté social qui est c'est pas prédominant, mais on s'en aperçoit quand même. Donc Bob Moran connaît évidemment de nombreuses langues, ce qui l'aide à se faire comprendre un peu partout. Il connaît également des techniques de combat très variées, et il a souvent l'occasion de les mettre en pratique avec son inséparable ami Bill Ballantyne. Alors lui, c'est une espèce de colosse, un géant écossais de 2 mètres de haut, 120 kilos, vraiment un monstre. Alors lui, il a une particularité, c'est qu'il aime beaucoup le whisky. Et il en consomme de manière complètement abusive, mais par patriotisme. Donc ça pardonne un petit peu cette petite touche qu'il apporte à la série. Autre anecdote amusante, il persiste à appeler Moran commandant, alors que Moran n'est plus du tout commandant depuis la fin de la guerre, donc ça donne une espèce de running gag entre les deux. Tu sais bien que je commande plus rien depuis la fin de la guerre, oui d'accord commandant, etc., etc. Et ça dure depuis 60 ans comme ça. Par contre, des bons héros, ça fonctionne pas sans Némésis digne de ce nom. Et là, un des personnages principaux et un des gros coups de génie d'Henri Verne, à mon avis, ça sera la création du personnage de Monsieur Ming, mieux connu sous son pseudonyme d'Ombre Jaune. De nationalité mongole, il a le crâne rasé, des yeux couleur d'ambre, et il est toujours vêtu d'un costume de clergyman. Il est à la tête d'une organisation secrète panasiatique qui s'appelle le Shintan. Donc ça, c'est directement lié au personnage de Sax Rohmer, Fu Manchu. Hein, il était à la tête d'une organisation qui portait pratiquement le même nom. Et l'objectif principal de Ming, c'est tout simplement de restaurer l'ancien empire asiatique. Il voue une haine tenace à la modernité occidentale. Et d'ailleurs, ça fait un petit point commun avec Moran. Les deux personnes se respectent énormément parce que, après, il y a une question de moyens mis en œuvre. Donc, Bob Moran n'acceptera jamais les offres de M. Ming de le rejoindre, mais il comprend parfois sa démarche. Mmh. Donc, c'est assez intéressant cette ambiguïté qu'il y a entre les deux. Donc, Ming, c'est une personne qui est redoutablement intelligente. Il a conçu une machine nommée Duplicateur qui intervient un petit peu plus tard dans la série. Alors ça, c'est merveilleux parce que ça lui permet de concevoir autant de clones de lui-même que nécessaire.
Pratique.
En cas de mort violente, il meurt souvent, il se régénère à l'autre bout du monde grâce à ce duplicateur. Donc c'est un personnage vraiment fascinant qui reviendra dans pas moins d'une quarantaine de romans développés donc sur les 60 ans. Il y a un autre personnage important dans la galaxie Bob Moran, c'est le fameux chef de l'organisation Smog, la magnifique Miss Ilang Ilang. Elle, c'est une Eurasienne secrètement amoureuse de Bob Moran. Bon, alors qu'en fait... On a eu l'occasion de s'en apercevoir à plusieurs reprises. Donc en fait, c'est un peu son meilleur ennemi. Il y a une espèce de petit chassé-croisé amoureux, toujours très romantique, entre les deux. C'est assez amusant. Donc elle, c'est une espionne, et le Smog, c'est son bras armé. C'est un organisme constitué de mercenaires. Il y a d'autres femmes dans l'univers de Bob Moran, notamment Tania Orloff, la nièce de l'Ombre Jaune. Alors elle est aussi belle que Missy Langilang, et elle est aussi sensible au charme de l'aventurier solitaire, évidemment. sans jamais aller jusqu'à trahir son oncle, Monsieur Ming, qui l'a élevé, donc elle lui reste quand même assez fidèle. Elle essaie malgré tout d'aider Morane et Ballantine dans l'ombre, en fait. Elle les tirera du pétrin à plus d'une reprise. Donc bon, je parlais tout à l'heure de Miss Paramount, c'est aussi un autre personnage important. Voilà, c'est une journaliste un peu intrépide. Elle est toujours plus ou moins en recherche de scoop. Elle a du mal à maîtriser sa fougue et ça la place souvent dans des situations un peu inconfortables. Pour le plus grand bonheur de Bob et Bill qui n'attendent que ça pour plonger dans le bain de l'aventure. Bon, sinon il y aura encore bien des personnages intéressants à mentionner, mais bon, 200 romans, on n'a pas trop le temps. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est découper ça, découper la chronologie de Bob Moran en cycles, parce qu'il y en a beaucoup. Alors il y a celui de l'Ombre Jaune, déjà mentionné, 40 romans, donc on y croise tout un tas de tueurs, tous plus maléfiques et monstrueux les uns que les autres. Il y a les Dacoits, les Thugs, les Wamps, et Bob Moran le traquera donc Ming et ses sbires aux quatre coins du monde, et même dans l'espace, jusque dans l'espace et dans le passé, puisque le cycle de l'Ombre Jaune finira par croiser le cycle dit du temps. Donc là, qui est un autre cycle complètement typé science-fiction. Donc c'est un cycle qui sera marqué par l'apparition de la patrouille du temps. Donc là, c'est lié à celle de Paul Anderson. On sait pas lequel l'a inventé, c'est arrivé à peu près en même temps. Il y avait des moments comme ça où des notions qui se croisaient dans la littérature populaire. Mais en tout cas, bon, cette patrouille du temps plongera Moran et les siens jusqu'à l'ère du Jurassique, hein, pour des aventures peuplées de créatures monstrueuses que Spielberg n'aura pas renié, par exemple. Donc il y a le cycle Missy Langilang, évidemment, donc lui il comporte une quinzaine de romans, plus orienté action-espionnage. Le cycle Ananke, alors ça c'est sans doute le plus connu, le plus respecté, le plus admiré des fans de Bob Moran, ça c'est vraiment de la science-fiction. Et moi j'ai une tendresse particulière pour le cycle des crapauds, qui se distingue par son caractère angoissant. Donc il est question d'une secte dont les membres arborent des masques de crapauds, toute la question est de savoir si ce sont vraiment des masques en l'occurrence. On peut aussi découper les romans en époque rapidement. Les amateurs considèrent par exemple la période Marabout, donc l'éditeur belge, comme la meilleure. Donc ça regroupe les 142 premiers romans parus durant les 25 premières années. Donc ça c'est là-dedans qu'on trouve normalement tous les meilleurs. Ensuite il y a un âge un peu plus sombre, le personnage a flotté entre plusieurs éditeurs, il est resté quelques années sans parution officielle. Et puis finalement il est passé entre les mains de Claude Lefranc en Belgique, qui s'en est occupé de 92 à 99 avec une espèce de beaucoup de rééditions, une vague constituée de gros volumes, peu d'inédits. Et depuis 10 ans, Bob Moran est édité par Ananke. Alors Ananke, donc du nom du cycle évoqué tout à l'heure, ça c'est la maison c'est la maison d'édition actuelle, qui souffre d'un grand manque de visibilité. Alors là, on est passé du personnage de roman populaire qu'on voyait partout sur les quais de gare, dans les grandes surfaces, dans les librairies, à une espèce de personnage de niche en fait, qui concerne un tout petit cercle d'initiés. Il y en a encore quelques-uns qui s'y intéressent. Il y a deux forums qui notamment fonctionnent encore un petit peu sur Internet. Alors deux forums concurrents d'ailleurs, c'est assez marrant parce qu'il y a les tenants de l'ancien Bob Moran, le classique, le vintage, et les tenants d'un Bob Moran plus moderne, adapté à l'époque actuelle. C'est une thèse qui est un peu difficile à défendre parce que bon, l'époque actuelle, ce qui a manqué, je pense, au personnage pour continuer à vraiment exister, c'est le film. Ça, je pense que ça aurait vraiment lui aurait donné un nouveau souffle. Il y a eu un projet développé par Christophe Gans pendant plusieurs années, ouais, qui n'a pas abouti du tout. Et c'est dommage parce que là, je pense que le personnage a manqué le coche du 21e siècle. Il aurait pu faire comme James Bond avec sa mue ces dernières années, ouais, vraiment se renouveler un petit peu. Là, il est resté un petit peu enfermé. Bon, il y a un dernier rebondissement dans la saga littéraire de Bob Moran depuis l'année dernière. Alors c'est assez curieux, par une espèce d'artifice éditorial, la série se sépare en deux officiellement. Alors il y aura justement d'une part le Bob Moran actuel qui va continuer à vivre des aventures contemporaines. Alors non plus sous la plume de Rivern. Alors Rivern écrit plus, il a 93 ans, hein, il écrit plus de Bob Moran depuis 20 ans. Il continue à les signer parce que c'est sa créature. Mais celui qui s'en occupe, là, c'est un écrivain belge qui s'appelle Christophe Kortoutz, qui est le nègre d'Henri Verne depuis une quinzaine d'années. Donc à lui de développer ses aventures contemporaines. Et dans le même temps, il y aura une autre série en parallèle où Bob Moran se verra dupliqué à son tour par l'Ombre Jaune et transféré dans le passé. Donc bon,
pour
ça,
des aventures c'est, vintage. Donc
c'est
en
un
gros,
petit peu tiré par les cheveux comme principe. Il y a trois romans qui sont déjà sortis, je les ai pas encore lus. Hein. Ils sortent là tous les trimestres depuis quelques temps. Donc on verra bien ce que ça donne. Bon, moi je suis un petit peu perplexe.
Ça fait penser à un univers qui se diversifie à la manière des comics, quoi, en fait. Hein. Des personnages qui meurent, qui reviennent, qui repartent dans le passé, dont il y a des doubles, des terres alternatives, etc. Ça.
C'est pas forcément toujours bon. C'est un artifice qui est un peu tiré par les cheveux. Bon, à voir où ils vont mener le personnage avec ça. Je suis pas sûr que ça soit une bonne manière de lui redonner de l'allant. Il faudra déjà qu'il retrouve un distributeur digne de ce nom et puis qu'il refasse des petits bouquins de poche comme les marabouts de l'époque. Là maintenant, Bob Moran, c'est du grand format, ça coûte 15 euros. Ouais. Des petits bouquins de 130 pages, ça fait un petit peu mal. Quoi.
Ouais, c'est clair.
Sinon, je sais pas si on peut considérer ça comme une série, mais dans les méchants récurrents, on trouve aussi l'homme aux dents d'or, Romain Dorgonetz.
Qui travaille pour le smog, toujours dans l'ombre de Missy Langilang. Ouais. C'est une espèce de crapule mal bâtie comme un sac de pommes de terre. Je crois que Henry Verne aime bien le décrire comme ça.
Et alors, Bob Moran, c'est aussi des bandes dessinées. Enfin, je pense qu'on a tout vu au niveau des...
On essaie de faire rapidement.
Voilà, rapidement,
Sinon, il faudrait une émission complète, je pense.
On pourra y revenir, peut-être, à l'occasion. Et sinon, c'est aussi des bandes dessinées.
Ce sont des illustrateurs et des bandes dessinées. Et en fait, j'ai envie de commencer par un petit clin d'œil. Parce qu'en fait, moi, le premier Bob Moran que j'ai lu, ça remonte à loin, hein, c'était Formule X-33, donc paru chez Marabout Junior, avec une couverture de Pierre Joubert. Qui était, on peut dire, assez quelconque, hein, un personnage qui est Bob Moran, qui saute d'un pont, voilà. Mais Pierre Joubert s'est largement amélioré, notamment dans la collection qui a suivi, Pocket Marabout. Et j'en ai sélectionné deux. Alors c'est toujours un peu difficile de parler d'images à la radio, mais je vais quand même essayer. Et donc dans l'épisode numéro 83... qui s'appelle Un parfum d'Ylang-Ylang, avec la fameuse Miss Ylang-Ylang dont on a parlé récemment. Il y a une très belle image, là, où on voit effectivement l'espionne en fourreau noir, en train d'enfiler des gants, et sur un fond très coloré, asiatique, avec des dragons, etc. C'est une image extrêmement plaisante, et on reconnaît pas tellement le Pierre Joubert dont on a l'habitude, qui était le...
Signe de piste.
Voilà, c'est ça. Là, parce que là, il y a un vrai travail fouillé dans le dessin, et bon, bien entendu, on sait qu'un dessin, une illustration, ça permet aussi de faire vendre les romans, et je pense que dans cette série Pocket Marabout, il a quand même atteint son coup. Le deuxième que j'ai sélectionné, c'est Menace sous la mer, qui est le numéro 96. Alors là, c'est une séquence très très dramatique, où on voit Bob Moran, Bill Ballantyne, et une femme ensablée jusqu'aux épaules et entourée de crabes qui sont prêts une nuée de crabes qui sont prêts à les dévorer sur un fond de mer rougeoyante du plus bel effet. Donc ça, évidemment, on ne parle pas de bande dessinée là, mais on voit quand même que l'importance de l'illustration dans la série des romans.
Ouais, Pierre Joubert reste toujours immensément respecté. Il est considéré par les amateurs de Bob Moran comme le meilleur illustrateur. Et depuis 50 ans, il y en a quand même eu beaucoup. Il y a eu quelques dessinateurs de BD, mais le nom de Joubert revient toujours. Il sera, je pense, pas surpassé. Et en tout cas, dans le cœur des Moraniens, il reste sur son piédestal encore aujourd'hui.
Et il faut noter qu'il faisait aussi des illustrations en noir et blanc à l'intérieur des romans.
Ouais, exact.
Alors, pour passer à la bande dessinée, il y en a eu quelques-uns.
Alors, dans l'ordre de mémoire, il y a eu Dino Attanasio, Gérald Forton, William Vance et Guillermo Coria.
Voilà.
Pas Guillermo, non. Ça,
je ne sais pas si tu peux dire quelques mots sur Attanasio.
Attanasio, c'est pas celui que je connais le mieux. Moi, je connais plus Vance et donc son beau-frère Coria. C'est lui qui lui a succédé sur la série jusqu'à il y a 2 ans où il s'est fait débarquer dans des conditions assez déplaisantes par le Lombard. Donc la série va repartir normalement l'année prochaine avec un pool d'auteurs renouvelé. Mais bon, pour l'instant, le pauvre Coria n'a pas vraiment été payé de sa fidélité au personnage. Il aurait quand même resté 30 ans à travailler dessus.
Alors c'est vrai que Gérald Forton, c'était un peu l'époque, on va dire, de la ligne claire, des cases bien dessinées, etc., des aplats de couleurs. Donc ça rend bien l'ambiance de la série. Mais pour ma part, et par goût personnel, je préfère quand même très nettement William Vance, qui a aussi commencé d'ailleurs comme ça au départ avec des cases bien tracées et qui, à un moment, a vraiment explosé dans son graphisme au point de déborder des cases. Et là, sur celui que j'ai sélectionné, Empreinte du crapaud, on voit que non seulement il déborde de ses cases, comme je le disais, mais il excelle dans les paysages pluvieux, les éclaboussures d'eau, les ambiances de brouillard, etc. Et là, ça rend vraiment... Il est excellent dans les ambiances comme ça, assez angoissantes.
Ah bah, je peux que souscrire. D'autant plus avec cette BD-là en particulier, qui, moi, c'est ma première peur d'enfance, en fait. Parce que j'avais lu le roman juste avant, et j'ai retrouvé les mêmes sensations en lisant la BD quelques mois plus tard. Elle venait de paraître, donc j'ai vraiment vécu la double sensation en même temps, et j'étais émerveillé, vraiment. Et il est resté, lui, longtemps sur la série, enfin longtemps. Il a fait 18 Bob Moran, ce qui est quand même pas rien, et ensuite, on le connaît tous, Vance, maintenant, pour son travail sur 13.
Il ressemble un petit peu...
Il lui ressemble beaucoup. Ouais. Hein. C'était en fait son prototype, hein. Ça lui a servi de brouillon, le Bob, mais on retrouve le personnage de 13 avec
la même physionomie. Ouais. Ouais.
Il y a aussi la série Bruno Brasil, qu'il a dessiné.
Oui,
hein,
exact.
Dans lequel on retrouve justement cette notion de... Je me rappelle de Orage aux Aléoutiennes, où il y a vraiment de la pluie tout le temps, et les personnages sont noyés dans ce climat, et ça rend vraiment une ambiance extraordinaire.
Exact. Et Coria, qui a donc, lui, pris la suite, au début, c'était un petit peu... il était un peu dans l'ombre de son maître, hein, c'est lui qui l'a formé. Au début, il faisait les couleurs, il a travaillé un petit peu sur les paysages, et puis du jour où il s'est retrouvé lancé tout seul sur la série, ça a été un petit peu difficile, mais assez vite on a quand même c'était agréable avec lui, parce qu'on a vraiment assisté à l'essor d'un dessinateur. Il a jamais travaillé sur une autre série, Coria, c'était Bob Moran pendant 30 ans exclusif, et on l'a vu progresser d'année en année. À chaque nouvelle bande dessinée, c'était meilleur, les traits s'affinaient, les paysages devenaient plus riches, les couleurs plus maîtrisées. Et moi, je trouve qu'il a vraiment fait un beau travail. Il est toujours resté un petit peu dans l'ombre devant, c'est dommage. Mais je pense que le temps le réhabilitera. J'ai confiance.
Voilà, c'était une petite présentation de Bob Moran, déclinée en BD, en livre, peut-être en film un jour, on espère. Ouais,
j'ai un peu perdu l'espoir. Ouais. Mais bon.
On va enchaîner avec un peu de musique.
Oui,
nickel, ouais.
On va enchaîner avec un petit peu de musique, alors avec un autre aventurier. Alors lui, c'est un Italien, il est sous le nom de son groupe Carlian Camerale, il a depuis 30 ans, donc il est un peu passé par toutes les étapes de la cold wave et de la musique industrielle. Il a changé de chanteuse un petit peu quand ça lui plaisait, tous les 2 ou 3 ans, il a changé de chanteuse, mais lui, c'est la pierre angulaire du groupe, et je trouve que... De par le parcours, de par l'allure même de Angelo Bergamini, allez faire une recherche sur internet, vous verrez à quoi il ressemble le Loustic. Pour moi, c'est un aventurier. We'll be right back.
Kirlian Camera, c'est ça ? Ouais, c'est sur ça. Radio G 101.5,
imaginaire.
Avec l'émission Imaginaire. Donc Robert Darvel est avec nous. Robert Darvel est avec nous et il va être peut-être un tout petit peu plus bavard que durant l'interview que j'ai fait dans sa maison. On entend la sonnette, vous avez entendu la sonnette ?
On a entendu la sonnerie du téléphone à la fin.
Non,
de...
c'était l'interphone en fait.
Oui, oui, c'était la bouffe pour les courses.
Voilà. L'interview de...
Donc Robert Darvel, le carnoplaste. On parlait tout à l'heure de. Enfin, le Tyrannosaurus Imperium évoqué, plusieurs.
Et invoqué,
ils sont là d'ailleurs.
On peut le dire.
Évoqué plusieurs séries d'aventures, Harry Dickson, Green Tiburon, Nus Sombre Lieu. Est-ce que l'aventure, c'est finalement le principe même de ces fascicules ? Ce sont des fascicules d'aventure ?
Oui, on peut considérer que dans le carnoplaste, il y ait des choses liées à l'aventure. C'est pas que des choses, c'est pas que des thèses.
Oui, d'accord. Donc ça bouge un petit peu.
Voilà.
C'est vrai qu'il y a Harry Dickson, Green Tiburon, Nus Sombre Lieu sont quand même des héros qui n'hésitent pas à donner du coup de poing.
Ils remuent avant de réfléchir, en fait. Des fois même, ils font les deux, ils réfléchissent et ils remuent en même temps.
Oui. Donc voilà, des fascicules, est-ce que c'est un format particulier qui finalement serait lié à toute cette tradition de courts romans populaires, parce que les Bob Moran finalement sont pas beaucoup plus gros qu'un
ouais,
fascicule.
Ça doit correspondre à peu près. Ou deux fascicules en fait.
D'accord. Donc on est vraiment dans ces récits-là. Où
en fait, ce qui a conditionné la taille d'un fascicule, c'est les fascicules originels de Harry Dickson. C'était 32 pages. 32 pages et la couverture, c'est tout. Et donc je suis parti sur ce format-là. On a grandi après à 10 pages de plus. Il y a des fascicules qui font 44 pages, mais la durée de l'histoire racontée, c'est ça. Quoi.
Sur 32 pages, bon, pour les gens qui nous écoutent et qui ne voient pas la forme d'un fascicule, on est proche d'un format presque BD. Donc
oui,
chaque page, il y a 3,
c'est
4.
Un 32 pages en double colonnage. Donc une page égale 2 pages. D'accord. Et un peu plus. Même.
C'était un peu comme des comics alors qu'on achète aujourd'hui.
Oui, c'est ce format 20-27, souple, sans couverture, en carton ni rien, qu'on lit et qu'on jette, ou on peut emballer des poissons ou des choses comme ça. Ou les garder pour dans 50 ans, ça vaudra des sous.
Et Robert Darvel, toi particulièrement, il y a quelques héros qui t'ont marqué au niveau de l'aventure. Harry Dickson, bon, bah, j'imagine un
Harry
petit
Dickson,
peu.
Harry Dickson, je l'ai rencontré dans les années 80, avec 70 même, avec les rééditions, les éditions Marabout, où il y avait aussi un petit peu de Bob Moran, à vous parler, que je ne connaissais pas du tout.
Et... Gustave Lerouge aussi peut-être, même si c'est
Gustave
bien avant.
Lerouge,
Gustave
ça, Lerouge, ça c'est une lecture de quand j'avais 10 ans. J'ai trouvé ça par hasard chez un copain, le bouquin, ça s'appelait Le prisonnier de la planète Mars et La guerre des vampires, c'était chez Mariono, comment il s'appelle, Martino. Et je lui ai piqué le bouquin et puis je suis jamais revenu de dedans. J'ai lu ça comme ça. C'est tombé de la planète Mars, je l'ai lu et je me suis dit un jour je ferai quelque chose en rapport avec ça.
Ça
fait que 40 ans que les choses sont...
Et les autres œuvres de Gustave Lerouge aussi sont importantes.
La conspiration des milliardaires, c'est beaucoup plus vivant à la limite à lire que Le prisonnier de la planète Mars. C'est beaucoup plus drôle. Le truc rigolo, c'est que c'est la puissance psychique d'Eddie Milfakir. Et ce qui m'avait marqué à l'époque de ma lecture, c'est que le gars, il est envoyé là-bas. Il y a donc 10 000 fakirs qui s'allient ensemble et qu'il balance tout seul sur la planète Mars. Il se réveille sur un rivage sur la planète Mars. Il ne sait pas encore où il est dans une ogive en acier vanadier, il a des ongles de 30 cm, il se dit qu'est-ce qui s'est passé. C'est un peu comme je ne sais pas quel film avec le tigre, là. Le lendemain on ne sait pas trop ce qu'on a fait la veille.
Bad trip.
Voilà. Donc là c'est un very bad trip sur Mars. Après il tombe avec des espèces de créatures qui sont complètement des choses qui sortent du sable, des yeux hypnotiques, des roues qui tournent avec un œil au milieu. Ça m'avait marqué comme gamin.
Et le carnoplaste aussi, peut-être.
Le carnoplaste, oui, le terme carnoplaste vient du mystérieux docteur Cornelius.
C'est
la carnoplastie étant sculpteur de chair humaine. Il intervertit les bons et les méchants dans l'histoire, rien que pour embêter ceux qui cherchent une mort à l'autre.
D'accord. Et il y a également, même si on ne la retrouve pas sous forme de fascicule, je ne crois pas, il y a Fantomette.
Ah oui, mais ça, c'est un émoi d'adolescent qui nous suit un petit peu. Fantomette, oui, c'est comme Gustave Lerouge, c'est des réussites, c'est des choses que j'ai commencé à lire tout petit et que j'ai arrêté il y a 2 semaines. J'ai lu les 50 histoires il n'y a pas longtemps. Et j'ai arrêté juste à la mort de Georges Chollet.
Donc Fantomette, c'est une jeune fille
qui vit
bon nombre d'aventures.
Elle a 12 ans, elle habite à Framboisie. En fait, c'est une collégienne comme tout le monde, sauf que la nuit, c'est Fantomette. La journée, on ne dira pas qui c'est, parce que c'est absolument jamais dit. Dans les 50 histoires, il y a 3 gamine, il y a Françoise, Ficelle et Boulotte. Françoise est brune et très intelligente. Ficelle, elle est complètement allumée, blonde et très longue et très idiote. Et Boulotte ne pense qu'à manger. Il y en a une des trois, c'est Fantomette.
Ah,
et
ça, j'ai
mais Georges Cholet ne le dit jamais. D'accord. Personne ne sait qui est Fantomette, en vérité. Ce n'est jamais dit Fantomette. Même il y a des histoires, Fantomette et son prince, où c'est raconté à la première personne. C'est donc Fantomette qui raconte son histoire, mais on ne sait pas qui c'est.
Peut-être les trois.
Ficelle pense que c'est elle. Enfin, elle fait croire à ses deux autres copines que ça ne peut être qu'elle, Fantomette. C'est, elle est super intelligente.
Il y a eu une série télé aussi, non ?
Il y a eu une série télé, j'ai vu ça. Il y a eu quelques épisodes. C'était avec peu de moyens et ça doit être assez touchant, mais sans intérêt par rapport à ce qui fait l'intérêt de Fantomette.
Combien il y a de romans, Fantomette ?
Il y en a 50 ou 51. Il y en a un qui est sorti il y a 3 ans en grand format. Donc, Fantomette a 20 ans, que je n'ai pas encore lu, par contre. Et ouais, puis j'ai vu qu'il y avait aussi, dans un livre dernier, j'ai trouvé Fantomette ce Pax. Mais je ne pense pas que ce soit un Georges Cholet. Ouais. C'est un spin-off. Voilà, voilà.
Ok. Écoutez, je vous propose d'écouter de la musique. Vous avez d'autres questions peut-être à poser à Robert ? Allez-y, profitez-en. Il ne sera pas là la prochaine émission, je pense pas.
Tu nous rappelles un peu les dernières sorties du Carnoplast ?
Ah oui, par exemple, il y a l'île aux chimpanzés de Marie-Jeanne Nielsen avec une belle couverture d'Olivier Fertel, où dedans, il y a une héroïne qui s'appelle Tatiana Orloff. Alors, à vous d'aller voir si elle a un rapport avec une certaine Tania.
Là, on est vraiment 100% dans l'aventure pur jus.
Là, c'est de l'aventure avec des singes derrière.
Un peu comme la chasse du comte Zaroff, finalement.
C'est la consigne de départ que j'ai donnée à l'auteur. Voilà, tu me fais une chasse au comte Zaroff, mais ça ne s'appellera pas Zaroff.
D'accord.
Et il n'y aura pas le mot chasse, sinon c'est bon.
Et de du, non.
Elle avait le droit au du.
Et d'autres séries, d'autres sont prévues ? Mousquetaire de Mars.
Déjà, il y a eu en décembre un truc qui a bien marché et qui a ravi tous les gars. Ça s'appelait Sérénade Sélénite. Ça, c'était un clin d'œil aux merveilleux scientifiques à la science-fiction du début du siècle dernier, où Marc Caro, qui est un petit peu connu dans le milieu de la bande dessinée et du cinéma, m'a livré une couverture et j'ai donné cette couverture comme contrainte à un gars qui s'appelle Jean-Luc Boutel, qui fait un blog où il recense, c'est un lecteur...
spécialiste du merveilleux scientifique.
Et je lui ai dit, avec cette couverture, tu me fais une histoire de science-fiction qui se passe en 1920. Et donc on retrouve Méliès et tous ces gens-là, et ça c'est très, très réussi. Ouais.
C'est la question que j'allais vous poser, comment vous faites pour l'adéquation, je dirais, entre l'illustrateur et l'écrit.
Alors c'est une question de hasard, de rencontre. Je laisse les choses pendant 2-3 ans se mettre en place petit à petit et après j'attends que les choses se réunissent. C'est un peu ça.
Il y a Casa récemment.
Casa est en train de me faire une couverture sur un ensemble dans lequel il y a Sérénade Sélénite qui va s'appeler l'histoire du système solaire en 1920. Voilà, chaque planète va être revisitée à partir de couverture.
Ok. Et Mousquetaire de Mars aussi, quand même. On parlait de Robert Darvel et tout ça.
Voilà, rentre aussi dans ce cycle-là, sauf que ça se passe 400 ans plus tôt, histoire de ne pas suivre les règles.
Voilà.
Mais sinon, pour le truc,
c'est Eric Newdon, toujours. Et on a quand même aussi le deuxième numéro des Chroniques du Jianghu.
Oui, les quatre élixirs
du Dr Zhu de Romain Duissier. Qui, là, pour le coup, on quitte un petit peu, finalement, le monde des arts martiaux pour tomber sur une intrigue digne du complot des clans ou de la guerre des clans, avec beaucoup de rebondissements, des gens qui se manipulent les uns les autres, etc.
Des combats à main nue et des choses comme ça, avec les virevoltes et tout, c'est très bien, ça.
Ok.
Et Béla Bartok contre la veuve noire de Hitler aussi, qui est quelque chose d'assez étonnant.
Le
frère Bartok se bat contre les nazis avec sa musique, sa propre musique.
Quelque chose d'étonnant de Jérôme V.
Jérôme Verschuren.
Verschuren, il faut dire maintenant. Donc Jérôme Verschuren, auteur de jeux de rôle, comme Romain Duissier, qui aussi passe vers le monde de la littérature populaire, notamment grâce au Carnoplast, soulignons-le.
Tout à fait. Merci, le Carnoplast.
On va écouter un morceau de How to Destroy Angels. Donc, c'est le groupe de Trent Reznor, de son épouse, dont j'ai oublié le nom, je vais vous dire ça tout de suite.
Donc, Patori Amos, c'est son ex.
Non, c'est Patori Amos, c'est Mary Queen Mandig, Trent Reznor, Atticus Ross, qui travaillait notamment sur les bandes originales de films, comme celle du Livre d'Eli, avec qui Trent Reznor a travaillé aussi sur The Social
Facebook,
Network et Millennium de Fincher, et Rob Sheridan. Donc, c'est le projet qui a occupé Trent Reznor après Nine Inch Nails. Ça fait un album qui a traîné longtemps parce qu'ils étaient sur des musiques de films, etc. Ouais. Et donc là, ça y est, il est sorti enfin avant-hier ou quelque chose comme ça. Hein. Et là, on va s'écouter la chanson Strings and Attractors.
Et d'ailleurs, Nine Inch Nails, justement,
Trent Reznor
vient de...
Ouais.
ils feront peut-être quelques festivals en Europe cet été, apparemment. Voilà.
Radio G, 101.5, How to Destroy Angels, le nouveau groupe donc de Train 13 Nord, tiré d'un morceau de Coil, au niveau du nom.
Enfin, son ancien nouveau groupe.
Son ancien nouveau groupe Nine Inch Nails, mais je pense qu'il va faire les deux en même temps. Donc, c'est la musique rêvée pour parler polar, et Jackie est là qui va nous présenter deux conseils de lecture sur cette émission. Nous t'écoutons.
J'avais envie de vous parler de deux romans noirs. deux polars, mais romans noirs. Le premier, c'est L'étrange destin de Catherine Carr, de Thomas H. Cook, paru au Seuil en janvier. Et le deuxième, c'est 3 minutes 33 secondes de Essie Edougian, paru chez Yana Levy aujourd'hui. Donc le premier, L'étrange destin de Catherine Carr, c'est un roman, donc je disais, noir, multiple, à tiroir. Il commence sur un bateau, sur un fleuve dans les eaux boueuses de la jungle. Un homme est interrompu dans sa lecture par un certain Mayawati, un homme plutôt détestable, mais ils engagent quand même la conversation. Ils en viennent à parler d'un sujet plutôt noir, des crimes qui restent impunis. Ils sont tous les deux d'accord pour dire que ça fait plaisir quand un être mauvais ne reste pas impuni pour son crime. Et l'homme se met alors à raconter à Mayawati une histoire, une de celles qu'on aborde avec réticence, un sombre mystère. Là, on entre dans une nouvelle histoire, celle de George Gates, un ancien écrivain voyageur qui a perdu tout goût pour la vie depuis que le corps de son fils Teddy a été retrouvé dans une rivière 7 ans auparavant. Depuis, il rédige des portraits de personnalités locales pour un petit journal. Le meurtrier n'a jamais été retrouvé, la culpabilité le ronge lui parce que ce jour-là, s'il était venu récupérer son fils à l'arrêt du bus comme il lui avait promis, bah, Teddy serait sûrement encore vivant. Donc, Gates rencontre par hasard Harlow McBride, un ancien flic maintenant à la retraite, qui avait fait partie des recherches au moment de la disparition de Teddy. Et Gates questionne Harlow en vue de faire un portrait de lui pour le journal pour lequel il travaille. Il se rend compte que cet homme a lui aussi une fêlure. En effet, il est marqué par une affaire de disparition non résolue, elle aussi, lui aussi, celle de Catherine Carr, une femme mystérieusement disparue 20 ans auparavant, qui avait été victime un jour d'une violente agression. Cette femme était écrivain-poète, comme Gates, et c'est le contenu de ses écrits qui rend sa disparition étrange. Un autre tiroir s'ouvre, cette fois sur l'histoire écrite par Catherine Carr. Enfin, en fait, on a vraiment affaire à un roman multiple, à l'intrigue assez complexe. Une histoire débouche sur une autre, qui entraîne dans une autre, on ne sait pas où on est embarqué. Mais chaque histoire a son épaisseur, sa tension, son climat de noirceur, car tout tourne autour du mal, du meurtre, de la noirceur des hommes. Enfin, c'est un roman qui n'est pas facile, je dirais, à résumer, parce que toutes les informations sont distillées par petites touches au fur et à mesure, un peu comme dans une toile d'araignée. Il faut tous les éléments pour saisir l'ensemble.
Une pelure d'oignon, un petit peu, avec des couches et des couches successives.
Et on ne peut comprendre l'ensemble que grâce à tout, chaque point. Et avec ce genre de livre, il faut accepter de se laisser embarquer. On ne sait pas où on va, et je dois dire que j'ai quelquefois été assez sceptique dans la lecture, parce que l'auteur laisse volontairement des contours flous, mais d'un autre côté, le mystère est magistralement entretenu, tout s'éclaire à la fin. En fait, il y a une fin qui vient donner un sens à toute l'histoire. C'est vraiment bluffant, on comprend, on échafaude des hypothèses, mais on se fait avoir, parce qu'à la fin du livre, la fin du livre fait prendre à l'ensemble une autre signification. Et Cook, dans ce livre, flirte avec le fantastique, on est à la limite, et ça donne une atmosphère générale encore plus mystérieuse. Enfin, c'est génial, on peut avoir confiance en cet auteur, on peut se laisser porter, ça vaut vraiment le coup. Alors Thomas H. Cook, c'est donc un auteur américain, il est connu, reconnu, il est l'auteur maintenant, je crois, de 26 livres, donc, oui, dont Les Feuilles Mortes, paru en 2008, et Au lieu dit Noir étant, paru l'année dernière. Enfin, ce sont des romans noirs. Enfin, on retrouve la patte de Cook dans celui-ci, mais plus poussé encore, et voilà, j'ai beaucoup aimé.
D'accord.
Allez-y.
Vas-y.
Donc je voulais vous parler aussi d'un autre livre qui m'a vraiment beaucoup plu, moins noir que celui que je viens de citer, mais aussi un roman noir à sa manière. Donc c'est de Essie Edougian qui s'intitule 3 minutes 33 secondes. Le titre en anglais, c'est Half Blood Blues. C'est un roman noir qui se passe en partie pendant la Seconde Guerre mondiale et en partie dans les années 90. À Berlin, à Paris, aux États-Unis, en Pologne, et qui tourne autour du jazz, au moment où il a été banni par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. L'histoire commence en 1940, on est à Paris, avec Sid et Hiero, deux amis et musiciens de jazz. Sid, c'est un noir de Baltimore. Hiero, Hieronymus, c'est un métis allemand. En sortant un matin dans les rues de Paris, leur destin a basculé. Hiero s'est fait arrêter sous les yeux de Sid, qui lui s'en est tiré. Comment est-ce qu'il a fait alors qu'il devait veiller sur le petit héros, enfin sur entre guillemets le gosse. On apprend que quelque chose, là on comprend que quelque chose s'est joué, mais on ne sait pas encore quoi. Hiero a été arrêté, déporté et on ne l'a plus jamais revu. Après, on arrive en 1992, à peu près 50 ans après, juste après la chute du mur de Berlin. Sid, maintenant, a 70 ans. Il est âgé, aigri. Son ami Chip, lui aussi musicien et de Baltimore, vient le convaincre de venir avec lui à un festival consacré au jazz, et tout particulièrement à Hiero, qui est devenu, malgré sa disparition assez tôt, une figure emblématique du jazz. Et Sid, qui a beaucoup de mal à accepter, va quand même se décider à prendre l'avion, à partir pour Berlin, pour ce festival. Et là, il est complètement atterré, il est complètement sidéré, parce que là, on l'accuse littéralement d'être la cause de l'arrestation d'Hiero à l'époque, d'être un sale type, un minable, et d'avoir fait ça juste par jalousie. Donc on va du coup revenir dans les années 40, quelques années avant l'arrestation de Hiero, et reprendre leur histoire, depuis le début, vécue à travers les yeux de Sid. On va donc plonger dans la guerre, mais aussi et surtout dans la musique. Sid, Chip, Hiero formaient un groupe de jazzmen. Avant la guerre, l'Europe était un endroit où les artistes noirs pouvaient se rendre et espérer gagner leur vie, mais sous le Troisième Reich, cette musique a été proscrite, qualifiée par Goebbels de musique de nègre. Et c'est dans ce contexte que les trois musiciens ont dû lutter pour survivre. Donc, malgré l'exil vers la France, leurs chances de survie se sont de plus en plus amenuisées, et le jazz est devenu pour eux le moyen de crier leur révolte et de se sentir en vie. Ils ont tenté un ultime enregistrement, donc c'est le morceau intitulé Half Blood Blues, qui est le titre donc, du livre en anglais. C'est un roman passionnant, j'ai trouvé aussi émouvant, drôle aussi, souvent, avec une écriture vraiment atypique, parce que l'auteur raconte l'histoire à travers les yeux de Sid, et aussi à travers le langage de Sid. C'est un parler noir américain du milieu du jazz qui donne un côté mauvais garçon au roman et qui fait qu'on a vraiment l'impression d'y être. C'est un roman très profond, une psychologie très profonde des personnages, et j'ai vraiment adoré ce roman qui n'est pas à proprement parler un roman policier, mais un roman d'atmosphère noire, enfin sombre. Et puis surtout, je crois que je me suis fait plaisir parce qu'on parle de jazz. Voilà. Qui est Essie Edoubian? Alors moi, je ne connaissais pas du tout. Elle vit à Victoria, vient de Vancouver. Et elle est l'auteur juste de quelques nouvelles, de trois nouvelles. Et 3 minutes 33 secondes, c'est son deuxième roman. Il a eu un prix au Canada. Il est traduit là dans plusieurs pays. Donc je pense qu'il aura pas mal d'avenir. Et voilà, en tout cas, j'ai adoré, et il est sorti aujourd'hui, et je pense que je vais le...
Alors, comment as-tu pu le lire s'il sort aujourd'hui?
Ah oui,
c'est de la triche.
J'ai triché, voilà.
Eh bien, écoute, merci beaucoup pour ces conseils de lecture. La transition était complètement trouvée avec le morceau que je comptais passer en générique, puisqu'il s'agit de Dr. John.
Article voulait dédier l'émission à Comès.
Oui, on a appris que le dessinateur scénariste Comès nous avait quitté à l'âge de 70 ans. Donc on voulait lui dédier cette aventure, cette émission consacrée à l'aventure, ne serait-ce que par rapport à son œuvre magnifique, quoi.
Il y a aussi Alvin Lee qui est mort hier. Je pense que Harvest, dans quelques minutes, ils nous passeront du 10 Years After.
Et donc on se quitte avec un morceau de l'album Gris-Gris de Dr. John, The Night Tripper, donc son premier album paru en 68. Voilà, quoi de mieux que pour faire le lien avec le jazz que Dr. John.
Un disque de musique Nouvelle-Orléans, on peut dire.
Nouvelle-Orléans, vaudou, jazz, blues, etc.
Enregistré à Los Angeles, quand même, avec des musiciens qui avaient tous été virés de la Nouvelle-Orléans parce qu'ils avaient des problèmes
de drogue, de police, etc.
Voilà, tout à fait.
Donc, on retrouvera Dr. John tout au long d'une très très longue carrière. Il a sorti Lockdown, son dernier album, avec Dan Auerbach des Black Keys très récemment. Et c'est du bon. Et là, on est sur son album, donc un peu bizarre, un peu vaudou, qui nous amène à faire des cérémonies au milieu du bayou. Et quant à nous, on se retrouve dans 15 jours,
semaines.
Même jour, même heure, sur Radio G. Au revoir. Limbo stick. Oh, King Cole.
a whole lot of soul. Couldn't slide on them bones.
Patum, 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 patum